Vous écoutez
RMC. Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Bienvenue dans l'after, tout le monde, en direct jusqu'à minuit, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en podcast. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on vient d'entendre du Domenech sur 15 secondes et qu'on n'en parlera plus de la soirée. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Kevin Diaz est là, salut Kevin.
Salut à tous.
Et Lionel Charbonnier nous rejoint. Salut Lio.
Salut messieurs, salut à tous.
Ça va en pleine forme Lionel, t'as
Je me suis régalé.
Ouais, hein.
J'ai vu deux beaux matchs. Même Lens, j'ai beaucoup aimé, mais là ce soir c'était un vrai régal.
Et c'est une fin de série pour l'OM. Après 8 victoires consécutives, Marseille ne perd pas ce soir, mais fait match nul face à Monaco, un partout. On va largement débriefer cette rencontre ce soir sur RMC, supporters marseillais monégasques, on vous attend au 32-16. Appelez-nous et venez débattre avec l'after. Quelques résultats à vous donner à l'étranger, tiens. Avant de dérouler le programme, sachez qu'en 16e de finale de Cup en Angleterre, Manchester United a battu Reading 3-1 avec un doublé de Casemiro. En Espagne, le Betis a battu Retafe ce soir 1-0. Et puis en Italie, l'Atalanta a dominé la Sampdoria 2-0. Je vous indique qu'on sera ce soir avec Paulo Breitner, puisque le Bayern Munich ne gagne toujours pas. Troisième match nul consécutif, un partout face à l'Eintracht Francfort de Kolo Muani, qui a marqué d'ailleurs. Donc on sera avec Polo vers 23h45 et on sera également avec Fred Hermel puisque le Barça s'est imposé face à Gérone 1-0 et que Dembélé est sorti blessé. Il nous donnera quelques nouvelles tout à l'heure. On reviendra aussi, Lionel, en parler sur le match nul de Lens à 3 cet après-midi, un partout, ami Troyen Lensois, n'hésitez pas, le 32-16, on en parle après le débrief de l'OM. Vous pouvez nous appeler et venir réagir. Tiens, moi je me demande si les Lensois doivent pas se réinventer face aux petits. Ils deviennent finalement un gros de ce championnat.
Pas mes points.
Ah,
t'es en train de me piquer mon point.
Ok, eh ben on attend tes points et on en débat juste après. Un point mercato également ce soir les gars, parce qu'il y a pas mal de mouvements à Paris notamment. Malcolm, intérêt réciproque. Skriniar est vraiment tout proche cette fois-ci. Ça bouge encore à Lyon ce soir. Donc un petit point mercato à vous donner ce soir. Un petit peu avant minuit, mais comme tous les soirs dans l'after, on commence par le plus important.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Et souvent l'essentiel, c'est le plus important.
Et juste avant d'avoir les points de Kevin et de Lionel, un point sur le rugby. C'est une grosse affiche de la 16e journée de Top 14. C'est un match incroyable à Paris, la Défense Arena. Racing 92, La Rochelle, Valentin Jamin.
Il est dingue ce match, encore 5 minutes à jouer, 36 partout puisque les Rochelais viennent de marquer un nouvel essai sublime de 70 mètres, une relance à la main de l'arrière Brice Dulin qui transperce un premier rideau et quand il entre dans le camp du Racing, il trouve à l'intérieur son demi d'ouverture Antoine Astoy, ce dernier aplati mais ne transforme pas, c'est pour ça qu'il y a 36 partout à 5 minutes de la fin.
A tout de suite Valentin pour le résultat, 23h, l'after, les 3 points de Lionel pour commencer.
Eh ben écoute, lorsque le premier point, lorsque je vois l'intensité de nos matchs et de nos équipes aujourd'hui, on a eu la chance de voir le deuxième, le troisième et le quatrième du championnat, que je vois l'intensité des matchs, le rythme à l'intérieur, la qualité technique de ces équipes-là, eh ben je dis que notre L1, elle est quand même pas si mal que ça. Même si pour mon point numéro 2, Lens, ça a été à l'arrache et que on voit les difficultés de Lens, enfin des Lensois lorsqu'ils jouent face à des blocs bas. Il va peut-être falloir changer quelque chose. Et puis mon point numéro 3, je mettrai deux joueurs en vitrine aujourd'hui, le plus âgé, 34 ans, Alexis Sanchez, et le plus jeune, Ben Seguir.
Les trois points de Kevin.
Écoute, premier point, ça va être ce match du soir. Hein. D'ailleurs, mes trois points sont sur le match du soir. Les Lensois m'en voudront pas. Cette équipe de Monaco qui a vraiment réussi à perturber l'Olympique de Marseille en faisant une énorme première mi-temps. Et ce sera mon point 2. Donc, Ben Seguir, j'ai envie d'en parler parce que j'entends parler de beaucoup de pépites ces derniers jours, ces dernières semaines. Mais des joueurs qui m'ont montré autant en 4 matchs, j'en ai pas encore vu beaucoup. Et en 3, c'est l'Olympique de Marseille qui, après une première mi-temps ratée, parce que bousculé par un très bon adversaire, a réussi quand même à réagir grâce au changement et au très bon coaching de son entraîneur. Et on s'est régalé dans ce match de Ligue 1. Et ça fait plaisir.
C'était le troisième contre le quatrième, et si on fait un point au classement, donc après le match nul de Lens et le match nul ce soir entre Marseille et Monaco, Lens deuxième du championnat, 45 points, le PSG à 47 et jouera contre Reims demain soir à 20h45. Marseille troisième, 43 points, Monaco quatrième, 38 points, Rennes cinquième, 37 points. Est-ce que ce match nul, Kevin et Elio, là, dans les dernières minutes, les 10 dernières minutes, vous avez senti que dans les têtes, on s'est dit que c'était un match trop important pour découvrir un peu trop, aller chercher un peu mieux que le point de match.
Pas que nous, hein. Même l'entraîneur de Marseille, hein, il a dit à ses joueurs, les gars, arrêtez de vous découvrir, c'est bon, maintenant on arrête de prendre des risques. Bah écoute, ça a été comme ça tout le long du match, et Marseille en fin de compte, honnêtement, il y a un joueur dont on parle pas beaucoup aujourd'hui, et je pense que Marseille lui doit quand même pas mal, c'est Blanco. Parce qu'en première mi-temps, les Monégasques ont l'occasion, suite, justement, à ce, je dirais, déséquilibre marseillais du milieu de terrain, et s'est exposé à des contres, et Blanco, alors il y a eu les arrêts de Blanco, il y a eu aussi la maladresse de Ben Yedder qui en loupe deux, des tirs non cadrés, si à la mi-temps il y a 3-0, il y a rien à dire. Ouais. Et donc Marseille se découvre beaucoup quand même. Donc faut faire attention, ils jouent avec le feu. Mais bon, c'est le football, c'est ce qu'ils veulent, c'est comme ça. Mais en fin de temps, t'arrêtes, il était temps, quoi.
Et au final, c'est un match nul logique quand on regarde, Kevin. Les deux équipes ont eu leur période, période chacune, quoi.
C'est un match nul complètement logique, dans le sens où l'Olympique de Marseille, c'est une équipe. Alors, quand est arrivé Igor Tudor, certains nous ont dit que c'était un entraîneur qui allait jouer très vite en transition, avec beaucoup d'intensité, que ça allait aller très très vite vers l'avant. Mais finalement, non. Marseille, c'est une équipe qui sait jouer en transition, mais qui sait aussi, notamment à domicile, avoir beaucoup le ballon, et c'est ce qu'ils ont fait dans la première demi-heure de jeu. Malheureusement pour eux, ou heureusement pour le spectacle, ils se sont très très bien fait contrer par cette équipe monégasque qui les attendait, qui a énormément de justesse technique pour ressortir les ballons, et c'est là que l'Olympique de Marseille a été en difficulté. Et par contre, ça s'est inversé en deuxième mi-temps, l'Olympique de Marseille a très très vite égalisé, et ensuite c'est Monaco qui a pris un peu la marée avant de ressortir la tête de l'eau en fin de match.
Et les gars, on a beaucoup d'appels au 32-16, et j'accueille Ryan ce soir dans l'after. Salut Ryan.
Bonsoir.
Tu sors d'où, Ryan?
Salut, Ryan. Le stade, là,
Je croyais que c'était Ryan Cherki.
On est encore à vif, là. Ouais. J'ai permis d'appeler, non, par rapport au match. Je sais pas.
T'es régalé.
Ouais. Je disais, j'entendais un petit peu les commentaires, c'est ça qui est ressorti, hein. Alors, une première mi-temps presque catastrophique, hein, si c'est pas pour dire absente. Franchement, j'étais très déçu au début. Deuxième mi-temps, franchement, on a vu un nouvel OM avec un Alexis Sanchez qui a été flamboyant. Lui, c'est vraiment
extraordinaire.
Mais moi, franchement, il a fait des retours, des récupérations de balles. J'étais avec mes collègues, j'étais là, mais je sais pas ce qu'il a pris à la mi-temps, mais c'était incroyable ce qu'il a fait à 34 ans faire ça. C'est un exemple. Et après, dans la norme, franchement, moi, comme je disais, à la 75e, je voyais mes collègues, je disais 1-1, vous prenez. Eux, pas trop. Moi, franchement, 1-1, je prends. Quand tu es dans la dynamique comme ça, perdre, ça aurait fait très mal. Derrière 8 victoires d'affilée, ça aurait fait très mal. Sachant que tu prends Paris derrière, ça aurait enchaîné des défaites. Tu prends un nul. Bon, voilà, on le prend difficilement, mais on le prend, quoi.
Ouais. Dans le stade, comment le Vélodrome a vécu dans le dernier quart d'heure le corner, là, tu sais, sur la barre transversale, il y a Kolasinac.
De
Balerdi, et derrière, il y a Kolasinac qui prend une semelle d'un défenseur monégasque.
C'est limite, hein. C'est limite, franchement.
Alors, limite, non, mais Lio, pour le coup, c'est pas limite. Aujourd'hui, moi, c'est pas mon football. C'est pas le football que j'aime d'arbitrer des actions 3, 4, 5, 10 secondes après. Mais tu regardes sur le direct, personne le voit. Mais tu regardes le ralenti. Ryan Maripane ne maîtrise pas du tout son intervention, rate le ballon. Certes, le ballon est au-dessus. Mais dans son geste, il finit ses crampons sur le haut de la cheville. Mais si c'est pas un carton rouge et un pénalty, qu'est-ce que c'est?
Et d'ailleurs, les gars, je précise qu'on vient de voir. Le diffuseur vient de montrer une image dans les travées du Vélodrome d'un Pablo Longoria très en colère, là, le président de l'OM.
Je pense que c'est pour ça. Hein.
Ouais, je pense aussi que c'est pour ça. Il a l'air d'attendre l'arbitre, peut-être. Il est devant une porte, là, en train de secouer ses mains, là, à l'italienne, un peu, là. On le voit dire Mamma mia. Il a pas l'air content. Ouais, Ryan, dans le Vélodrome, tu l'as vécu comment, toi, ce moment?
Moi, honnêtement, comme mon collègue me disait, on pensait qu'il avait tiré avant, en fait. On pensait qu'il avait tiré avant qu'on l'a
tiré. Mais ça, peu importe, après, Ryan. Ryan, tu sais le ballon il est sorti, il est dans la tribune. Il y a un défenseur qui met un coup de coude à un Marseillais dans la surface. Je fais un truc fiction, c'est pénalty carton rouge en fait. On s'en fout que le ballon soit dans la tribune.
Totalement. Mais nous honnêtement, il y a pas eu de scandale du virage du stade. Personne on l'a pas vu en fait dans notre angle.
Ça reste un fait de jeu. Hein,
oui, et ça confirme que aussi que l'arbitre a pu ne pas le voir, mais effectivement quand tu as la vidéo, il peut être derrière.
Quand tu regardes quand même la physionomie, Ryan le disait fort justement, la physionomie du match à la mi-temps, si l'OM repart à la mi-temps avec 3-0 il n'y a rien à dire. Donc oui, là, c'est autre chose à la limite.
Tiens les gars, voilà. Ryan, bouge pas, je te reprends dans un instant, mais c'est terminé au rugby. Quel match entre le Racing et La Rochelle, Valentin Jamin?
Et ça s'est joué sur une toute dernière pénalité, transformée par Finn Russell. Victoire finale 39-36 du Racing face à La Rochelle. La Rochelle, première défaite sur cette année civile 2023. Et le résultat, c'est qu'avec ce point de bonus défensif de La Rochelle, et bien le Racing revient à hauteur de son adversaire du jour au classement. 42 points pour les deux équipes. Victoire du Racing 39-36.
C'est régalé celui-là, Paris, la défense Arena. Ah bonne oui, soirée, Valentin. À très vite. Bye bye. Retour au foot et donc ce match nul entre Marseille et Monaco. Je voudrais remercier Ryan. Ouais, Lio, vas-y.
S'il est parti, Ryan.
Non, il est là, normalement.
Ouais, non, parce que Ryan a parlé d'un mec, et moi, je le trouve essentiel, et notamment pour le début de deuxième mi-temps, c'est Alexis Sanchez. Il a été extraordinaire. Moi qui étais gardien de but, j'ai eu la chance d'avoir des attaquants comme ça qui étaient les premiers défenseurs, qui te mettaient le rythme, qui mettaient mais c'est hallucinant. Et quand t'es milieu de terrain, que t'as des, le mec il a boosté tout le monde derrière lui, il a ramené tout le monde, il a fait le travail. En plus il est décisif, c'est magnifique.
Comme ça à l'OM, c'est fou.
C'est exactement le joueur pour l'OM, ce qu'il faut avoir comme état d'esprit. Je pense, de mon côté.
On va pas se le cacher, Lionel. Et moi, j'avais échangé avec des gens très haut placés en Italie qui m'avaient dit que pour eux, physiquement, ça allait être compliqué. Alors, je vais pas dire qu'il était cramé, mais presque. Nous, on l'avait moins vu jouer, moins vu enchaîner les matchs sur les derniers mois avant qu'il signe à l'OM. Mais franchement, bravo encore une fois à Longoria et aux dirigeants et à Alex Sanchez d'avoir relevé ce challenge, parce que quoi qu'il arrive, c'est une réussite. C'est complètement dingue d'arriver à son âge. On savait que c'était un joueur énergique, etc., mais qu'il arrive comme ça à enchaîner les matchs. Il faut dire qu'il est aussi bien géré par Tudor, qui arrive et qui a le cran et le caractère de le sortir quand il faut. Ouais. Mais franchement, ce qu'il fait, c'est super.
On va juste remercier Ryan pour conclure. Alex Sanchez, vu du stade, c'est comment, Ryan?
Ah non, mais voilà, c'est ce que je vous disais. Alexis Sanchez, impressionnant. En fait, c'est deuxième mi-temps, parce que première mi-temps, on l'a pas trop vu. Deuxième mi-temps, il est flamboyant. Mais voilà, moi, le petit coup de fusil un peu que j'aimerais tirer, c'est sur Tudor, parce qu'honnêtement, commencer les changements à la 85e, quand tu vois que le match, tu peux faire le basculer, tiens, Payet qui n'attend que ça, parce que nous, on l'a scandé, hein, quand Payet est rentré, c'était vraiment l'ébullition.
Il a changé à la mi-temps quand même, hein. C'est d'ailleurs ce qui fait un peu basculer le match.
Tu fais sortir Banguendouzi, je suis d'accord sur lui, parce qu'il a été médiocre aujourd'hui. Je ne sais pas s'il a la tête à Aston Villa ou pas, lui. Bon, on en parlera plus tard.
Ouais, il change Nuno Tavares aussi de l'autre côté, c'est lui qui fait le centre, ouais. C'est lui qui. Ça vient du côté droit.
Sur le sujet, mais voilà.
Ryan, je pense que.
Payet doit rentrer plus tôt.
Ryan, je pense que on aime tous Dimitri Payet, c'est un talent exceptionnel pour le foot, mais il faut malheureusement se rendre à l'évidence que je pense que son entraîneur le respecte et respecte sa carrière et son talent, mais il ne passe pas dans le système de Tudor selon son entraîneur.
Je pense que
nous on voit Payet avec le ballon, mais Igor Tudor il voit sûrement Payet sans le ballon, et il se dit que face à l'AS Monaco qui peut en planter un dans les 5-10 dernières minutes aussi, et ça aurait pu être le cas ce soir, il veut 11 joueurs qui sont capables de faire les efforts, et on sait très bien que Dimitri Payet n'en est pas capable, même si moi aussi j'aurais aimé le voir un peu plus longtemps.
Ryan, merci beaucoup de nous avoir appelé ce soir en sortie de
salut Ryan.
Tu reviens quand tu veux dans l'after.
Bonne soirée,
Ryan.
Merci à vous.
Tu rentres à Marseille?
Moi je suis de Nîmes, moi, donc on va faire la route.
D'accord.
Bon, allez, faites attention.
Prudence, on met RMC dans les voitures.
On mange un petit bout et on y va.
Allez, ça marche.
Bonne soirée à vous aussi.
Bon appétit,
merci.
Ryan. À bientôt.
Merci.
Bye bye. 23h10, c'est l'after avec Kevin Diaz, avec Lionel Charbonnier sur RMC. Vous commentez l'émission, vous le savez, sur le Direct Studio, sur les applis RMC, RMC Sport. Dylan écrit bonsoir toute l'équipe. Il faut souligner le travail d'Igor Tudor, car moi, pendant la pré-saison, je me disais, ça va être une cata. Je crois que les Marseillais étaient nombreux. Vous réagissez également au 32-16. Marco, supporter de l'OM, à nouveau est là. Salut Marco.
Salut les gars, bonsoir.
Bienvenue
dans l'after, Marco.
Ouais. Non, juste pour dire, je suis amoureux. Hein. Ah. Je suis amoureux d'Alexis Sanchez, les gars. Franchement, c'est tellement kiffant de voir un joueur comme ça à l'Olympique de Marseille. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de joueur d'un si haut niveau. Le type, il est irréprochable en fait. Même si sur la première mi-temps, on a pris des vagues, on a concédé des occasions. Et comme vous l'avez dit, hein, si à la mi-temps il y a 3-0 pour Monaco, il y a rien à dire. Mais franchement, en deuxième mi-temps, il a été détonateur. Il a récupéré des ballons, il a harangué les foules, il a ramené toute l'équipe derrière lui. C'est vraiment exceptionnel d'avoir un joueur comme ça. Et Tudor le gère super bien, je trouve, et il apporte vraiment un plus dans cette équipe. Un match comme ça, t'as pas Alexis Sanchez sur le terrain, je suis même pas sûr que tu reviennes au score.
Mais le problème en plus, les gars, c'est que heureusement qu'il est là, parce que s'il est pas là, t'as plus personne derrière. Va falloir vite combler ça quand même à Marseille, parce que
ouais, après attention, il y a des joueurs, il y a des joueurs qui sont plus collectifs. Lui, c'est vraiment l'individualité, mais c'est le seul qui a une telle carrière dans cet effectif.
Non, mais je veux dire à ce poste-là, numéro 9 à Marseille, il y a plus personne. Dieng est parti.
Je pense que maintenant que Dieng est parti, on peut quand même faire confiance à Pablo Longoria pour recruter au moins un attaquant. T'as Unai qui n'est pas du tout un attaquant, mais qui est un gars capable quand même de se projeter aussi, de faire ce lien et ce joueur un peu box to box, capable de défendre et aussi de se projeter. T'as Malinovski qui est pas encore au top de sa forme, même si voilà.
C'est pas mal.
C'est pas mal. Je suis d'accord. Et puis les gars, il va peut-être falloir parler de l'énigme du soir, c'est-à-dire mon ami Nuno Tavares, parce que Nuno Tavares, je sais pas ce qu'en pense notre auditeur, mais
je pense clairement qu'il est droitier, et comme je pense depuis le début depuis un bon moment, je pense que c'est un gaucher forcé. Je pense qu'on l'a forcé à jouer du pied gauche, mais toutes les attitudes que tu vois à un moment donné en deuxième mi-temps, il a une reprise de volée. Il va pas sur son pied gauche, il se met tout de suite en position de pied droit.
Ce qui est fou avec Tavares, c'est que il avait fait son premier match avec Benfica. Il joue arrière droit, il marque du gauche. Son premier match avec l'équipe première de Benfica, c'était sur RMC Sport. Il rentre sur son pied gauche, il marque du gauche. Avec l'OM, depuis le début de saison, il joue à gauche. Il n'a de cesse de tirer du droit. Et ce soir, il joue à droite et il retire du gauche. C'est quand même un joueur qui est très, très difficile à analyser, très difficile à lire. Et c'est pareil pour les adversaires. Après, voilà, c'est nul. Moi, honnêtement, je peux comprendre. Hein. J'ai lu un peu à droite, à gauche sur les réseaux sociaux que certains supporters marseillais sont un peu agacés. Mais honnêtement, c'est un joueur qui est généreux. C'est un joueur qui certes a les défauts de ses qualités, mais pour l'OM ça reste quand même dans l'ensemble, je trouve, une certaine plus-value.
C'est positif quand même depuis le début de la saison. Il a marqué des buts, il récupère
aujourd'hui
des ballons.
c'est lui qui a l'initiative de l'égalisation,
hein. Oui, tout à fait,
le centre, c'est lui.
Mais par contre, en première mi-temps, à lui tout seul, il avait perdu 10 ballons, ce qui est énorme, ce qui est beaucoup trop.
C'est énorme pour un piston, parce que tu sais que quand les pistons ils perdent le ballon, en général, il y a des boulevards derrière eux. Et voilà.
Après, en première mi-temps, il y a beaucoup de joueurs qui de l'OM qui ont perdu beaucoup de ballons.
Hein. Ah oui, 10 ballons, c'était pas le seul.
Au final, c'est 13 ballons perdus. Je crois qu'il frappe 8 fois aujourd'hui.
Deuxième mi-temps, il a frappé à un moment donné. Je croyais qu'il faisait un spécifique.
Huit frappes.
Frappe au but.
Tiens, Marco, comment t'analyses le coaching de Tudor, toi? Parce que nous, sur le direct, il nous a semblé plutôt judicieux, notamment celui de la mi-temps, où il fait entrer Balerdi, il change totalement l'animation, justement en changeant de côté Tavares, en faisant monter Under. Mais l'auditeur Ryan, qui était juste avant toi, lui, il voulait mettre un coup de fusil à l'expression, bien sûr, à Tudor. Toi, comment tu analyses le coaching ce soir du coach de l'OM?
Moi, ce soir, le coaching, il est bon. Il fait le changement dans les 10 dernières minutes. Parce que je pense que, comme vous, je sais pas si c'est Kevin ou si c'est Lionel qui l'a dit juste avant, mais je pense qu'il sait qu'avec un Dimitri Payet, t'as un déséquilibre sur le travail défensif si tu le fais rentrer. Et d'ailleurs, à la fin, on a vécu un peu la même fin de match qu'on a vécu contre Rennes le week-end dernier, où on a subi, on a tenu. Et un Dimitri Payet pendant 10 minutes, on va dire que ça va, ça passe. Mais si tu le mets un peu plus tôt, ça peut être compliqué au niveau de la perte de balle.
C'est clair. Après, moi, je trouve quand même que ça réaction. L'équipe de départ de l'OM, je la trouve normale. C'est logique. C'est l'équipe type depuis l'absence notamment de Jonathan Clauss. Et l'arrivée de Malinovski. Après, faire ce changement tactique à la mi-temps, sortir Guendouzi, qui n'était pas non plus catastrophique, il n'était pas bon, mais pas beaucoup, beaucoup moins bon que les autres. Et derrière, réorganiser.
Je le trouvais trop excentré, moi, personnellement. Il a quand même réorganisé toute
la défense en changeant trois joueurs de poste.
C'est pour ça qu'il est sorti.
Oui, mais je veux dire, le coach change trois joueurs de poste et tout de suite, t'as une amélioration. Donc, ça crée cet électrochoc. On sait que le plus dur pour un coach, c'est d'être impactant sur le jeu et sur le scénario d'un match. Et force est de constater une nouvelle fois qu'Igor Tudor a réussi à le faire. Et derrière, moi, je suis complètement d'accord. En fin de match, il fallait fermer parce que Monaco pouvait largement t'en planter un aussi.
C'est difficile, parce que c'est vrai que les supporters, veulent tout le temps à faire des changements, il reste plus que 20 minutes, on fait des changements, tout ça, ce que c'est. Mais là, dans le rythme, tout ça, c'est vachement compliqué parce que t'as peur, à 20 minutes de la fin, l'OM est encore capable, ils sont dans une bonne dynamique et tout. Si tu fais le changement, est-ce que quand t'es entraîneur, tu te dis, est-ce que je vais pas casser ce rythme? Est-ce que t'es tout le temps en train de poser des questions? C'est pas que le mec il veut pas faire les changements, c'est que il y a d'autres paramètres à prendre en considération. Et que c'est pas toujours facile. Et là, au moment où il fait le changement, c'est parce que l'OM commençait à piquer du nez physiquement. Tiens, c'est tout.
Les gars, je vous parlais de la colère de Longoria après le penalty non sifflé sur Kolasinac. Là, après le coup de sifflet final dans les couloirs du Vélodrome, il a dit "Mamma mia, à quoi sert le VAR ?" Voilà ce qu'ont capté les micros du diffuseur dans les couloirs. Je remercie Marco de nous avoir appelé ce soir. Merci Marco.
Est-ce que je peux faire une petite dédicace?
Et bien sûr, en mode libre antenne, on aime ça. Vas-y Marco.
Ouais, c'est juste une dédicace à Nico, un pote qui bosse avec moi et qui est supporter de Monaco. Si tu veux, je te donne une bonne. Si je peux lui laisser un message, c'est juste lui dire si tu veux, on échange pas nos gardiens, mais mon gardien numéro 2, il est meilleur que ton numéro 1.
C'est avec Nobel.
Ce soir. J'ai du mal avec nous.
Merci Marco, le message est passé.
Salut Marco. Super, merci les gars, vite. Bonne soirée.
Merci. Salut, toi aussi, Marco. Tu reviens quand tu veux dans l'after 32-16, si vous voulez faire comme Marco, même supporter monégasque, n'hésitez pas, 32-16, tu nous appelles, tu passes à l'antenne tout de suite. Pas encore, si, bah, tiens, on a un, quoi. Ouais, il y a Mathieu qui nous a appelé, qu'on va prendre dans quelques minutes. Je précise que dans une dizaine de minutes, on reviendra également sur le match nul de Lens à 3, donc Troyens, Lensois, le 32-16 est également ouvert pour vous. On va prendre un dernier supporter de l'OM ce soir, qui était au stade également. C'est Jonathan. Salut Jonathan.
Oui, bonsoir les gars.
Ça va Jonathan? T'es où là?
Salut Jonathan.
Salut Nico, salut Kevin, salut Lionel.
Salut Jonathan.
Bon, salut Nico, Lionel, respect pour ta carrière Lionel.
Merci.
Jonathan, t'es où là? J'ai l'impression que t'es en voiture déjà.
Ouais, je suis en voiture, vous m'entendez bien les gars ou pas?
On t'entend bien, t'es où là exactement?
Là, je sors du stade là.
Bon, on a mis le kit main libre?
Ouais, tu veux que je passe en normal?
Ah non, c'est très bien, mais c'est juste pour être prudent, tu vois.
Oui, t'inquiète pas, c'est mon collègue qui conduit.
Ah, parfait. T'as passé une bonne soirée au Vélodrome?
Ouais, c'est quand même un match agréable vu du stade. Bon, première mi-temps très très difficile. Et mais à la fin, comme on dit souvent, quand tu peux pas gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre. Donc, je pense qu'on méritait quand même de gagner sur la physionomie du match, mais bon. Première mi-temps vraiment catastrophique.
Ah ouais.
Et comme disait Lionel, s'il y a 3-0 à la mi-temps, bon ben le match il est plié quoi. Je veux dire, j'ai vraiment pas compris comment en première mi-temps, c'était pas 1-2, mais c'est 7-8 joueurs qui sont catastrophiques ramasse dans tous les duels, pas d'impact physiquement. Mais... Ouais.
Tu sais Jonathan, il y a une chose qui est simple hein, dans le football, c'est l'adversité en fait. Et l'OM c'est une très très bonne équipe, on le dit, on le répète, mais l'AS Monaco de ce soir, en tout cas quand tu dis que l'OM mérite de gagner, je pense pas, parce que un match c'est 90 minutes et sur les 45 premières minutes l'AS Monaco a été bien bien meilleur et j'ai pas vu une équipe meilleure que l'AS Monaco au Vélodrome, peut-être sur certaines périodes c'était Tottenham quoi. Mais à part ça, voilà, aujourd'hui l'AS Monaco a fait un match niveau Ligue des Champions quoi, niveau phase de groupe Ligue des Champions. Donc à partir de là, bah tu vois aussi les limites de l'effectif de l'OM face à une grosse équipe sur 45 minutes en tout cas. Et ben ils ont été battus, ou en tout cas ouais battus. Justement, à la mi-temps en tout cas face à meilleur.
Vas-y Jonathan.
À ce point noir, c'est comment tu peux être le 28 janvier et n'avoir que Alexis Sanchez être l'Olympique de Marseille et n'avoir qu'Alexis Sanchez et encore j'allais dire attaquant, ce n'est pas un attaquant. c'est quand même, moi, je trouve ça dramatique quand même.
Ouais. Ouais, c'est-à-dire, ouais, on est loin.
Ouais, mais Jonathan, loin, Jonathan, c'est là où
avoir,
il...
On devrait avoir un œuf.
Il faut regarder les finances, Jonathan.
La profondeur. C'est quand même dommage de travailler comme ça. J'aime beaucoup Longoria ce qu'il fait, mais ça, quand même, quand t'es l'OM, tu devrais avoir ton œuf déjà. Début de mercato, tu devrais anticiper. Tu sais que Sanchez, c'est pas un œuf. Tu le sais. Tout le monde le sait.
Jonathan, excuse-moi de te couper, mais Terem Moffi, c'est un numéro 9. On parle de 30 millions d'euros. 30 millions d'euros pour Terem Moffi. Donc imagine-toi. Non mais Jonathan, imagine-toi le prix des vrais numéros 9 niveau Ligue des Champions où veut aller l'Olympique de Marseille. Il y a un moment, il y a une réalité qui s'appelle la finance, quoi.
Comment? À moins de 30 millions d'euros, tu en trouves.
Ouais, honnêtement, c'est très compliqué.
Tu peux en faire des bons coups.
C'est difficile.
Mais après, bon, il reste 3 jours, hein, on est le 28, on parle, il est 23h.
Attends-toi une arrivée quand même.
C'est dommage que, tu vois, ce soir, si t'as un 9 sur le banc, eh ben, c'est pas la même. Alexis, il peut reculer d'un cran. Et on peut finir le match avec un vrai neuf.
Moi, je suis d'accord avec toi, Jonathan Chou. C'est un peu flippant, l'effectif de l'OM. Et voilà, Sanchez est là, il est excellent.
Alors, attends, dernière chose, après, je vous laisse, les amis.
Vas-y,
qu'est-ce qu'il nous a montré ce soir, Tudor, jusqu'à la 85e minute, qu'il n'a pas confiance en son banc de touche. Et ça me dérange.
Il n'y avait pas de banc aujourd'hui, Jonathan.
Gueye, Kabore, Payet, ça veut dire que des matchs de haut niveau, que ce soit contre Paris, Lyon ou quoi, s'il y a un 0 ou un partout, ça veut dire qu'il n'aura. Il n'aura pas confiance en eux, puisque normalement, ils doivent rentrer. Kevin, tu as vu le match? Tu as vu que Malinovski, il était cuit. Tu as vu que Tavares, sur le côté droit, il doit sortir à la 75e. Et il ne le fait pas.
Jonathan, sur le banc, tu les as cités. Dimitri Payet, on l'a tous adoré, mais il a 35 ans. Il y a un moment, pour le très haut niveau, le banc de l'OM n'a pas le niveau.
Jonathan, merci.
Jonathan. Kevin, quand même.
Mais même sur un quart d'heure, Jonathan, les erreurs, les efforts.
Kevin. Moi, j'aime le travail de Longoria, mais être le 28 janvier et pas avoir un banc de touche quand t'as Klose blessé, Harit blessé et Lopez blessé, c'est pas normal.
On fera un point le 1er février, Jonathan. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir
appelé. Merci à vous, les gars.
Tu reviens quand tu veux dans l'after.
Merci.
Salut, Jonathan.
Bonne soirée, les gars.
Bye bye, merci. Salut, toi aussi. Et à très vite. 23h23, vos commentaires sur le direct studio. On va parler de Monaco. Mathieu est là, supporter de l'ASM. Salut, Monaco.
Salut les gars.
Salut Mathieu, je t'ai appelé Monaco Mathieu. Directement. Quoi.
Salut Mathieu.
Ça va Mathieu?
Ça va et vous?
Bah ça va super. Alors toi aussi t'étais au Vélodrome. En fait, tous les gars, ils nous appellent tous du Vélodrome.
Magnifique.
T'étais là-bas Mathieu?
Ouais, super soirée, super soirée.
T'étais où toi dans le stade, dans le chez les?
Bah juste devant le banc des Monégasques.
Ah d'accord.
Okay. Et quel est ton sentiment Mathieu ce soir? C'est t'es heureux du match nul ou tu te dis t'as un petit goût amer quand tu vois la première mi-temps?
En gros première mi-temps. Des Monégasques, franchement, très altruistes. On les bouffe, on les mange. Ils ont un peu plus de ballon que nous, je trouve, mais vu du stade. Mais on est plus dangereux, il n'y a pas photo. Et après, deuxième mi-temps, là, je m'avoue vaincu. Les Marseillais, vraiment meilleurs que nous, il n'y a pas photo. Tête de champion.
Ah, carrément.
Ouais, Marseille joue le titre. Pour moi, Marseille joue le titre, les gars.
Oui, bah après, ils sont là ce soir à 4 points du PSG qui joue demain contre Reims.
Le problème, Mathieu, c'est ce qu'on vient de dire.
Paris va battre Reims demain.
Est-ce que tu penses que le banc est assez important pour l'OM pour jouer le titre justement?
C'est ce qu'on vient de dire avec Jonathan. Ça va être compliqué quand même avec le banc de l'OM.
Ce soir, le banc était.
Parce que là, tu vas jouer tous les 3 jours.
Pour les Marseillais, Tudor a fait des remplacements trop tard. Mais l'OM est là. En tant que Monégas, ça me fait mal au cœur.
Ouais.
Mais
toi, ce soir, t'es à 5 points de l'OM et donc il y a 5 points de la 3e place du podium. Ils sont inaccessibles, ce podium.
Ouais. Il n'y a pas photo.
Donc pas de podium pour Monaco cette année, Mathieu.
Quatrième, il faut que Lens s'écroule. Et Lens est quand même, malgré le match nul de Lens à 3, ils sont quand même sur une bonne dynamique. Lens, ça joue bien, faut dire ce qui est. Et je les vois pas s'écrouler.
Bah, moi, je, Moi, je peux quand même te dire un mot très positif sur l'AS Monaco parce que j'en ai envie, parce que honnêtement, vous le savez, je suis pas du genre à m'enflammer pour des jeunes joueurs, surtout quand ils n'ont pas encore 18 ans. Mais ce que j'ai vu de Ben Seguir ce soir,
ah oui,
j'en parlais avec Thibaut pendant le match, mais on a beaucoup parlé de certaines pépites, hein, notamment de Ryan Cherki sur ces derniers jours particulièrement, mais en 4 matchs de Ligue 1, ce que j'ai vu de Ben Seguir, j'ai vu beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de volume, de technique, d'efficacité pour son équipe,
de
jeu
physique.
Collectif, d'impact même physique,
l'impact
comme tu dis, par rapport à Ryan Cherki que je vois depuis 3 ans en Ligue 1. Ah, mais bon, après, voilà.
Le dernier 17 ans qui est parti de Monaco.
Mais c'est ce que j'ai dit. Mathieu, toi qui as vu passer.
Il s'appelle Mbappé.
Hein. Quelques pépites et une en particulier
faut voir
à Monaco.
Denis, mais c'est quelque chose.
Qu'est-ce que tu l'as vu de près, là, encore ce soir, Ben Seguir? Qu'est-ce que t'en penses de lui?
Et Kevin.
Je t'écoute.
Ouais. En vrai, je suis pour l'OM.
Allez l'OM.
Ah d'accord, ok.
Je suis d'accord avec toi. Quand Ben Seguir et Ben Yedder ils étaient titulaires, j'étais pas bien.
Mathieu.
Et Ben Seguir, il a fait un vrai match. Il a fait un gros match.
C'était très très marrant, mon gars. Mathieu, en tout cas, je me disais aussi, on a le seul supporter de Monaco qui appelle, qui parle de toutes les équipes sauf de Monaco. Écoute. Bon, bah passe une bonne soirée, Mathieu. Amuse-toi bien avec tes potes.
Mais quand même, t'as un Marseillais qui reconnaît que Ben Seguir est exceptionnel.
Ouais. Tiens,